Et voilà, on y arrive. On est au jour 35 dans nos 40 jours avec Jésus sur la montagne. Alors peut-être des gens nous visitent là et ne savent pas trop de quoi on parle. En fait, on a commencé en mars une randonnée biblique sur le sermon sur la montagne avec une petite montagne, des petites figurines, c'est vous là, qui autour de Jésus, qui enseigne sur une colline, on va dire, et qui fait un sermon, comme le disait saint Augustin. C'est lui qui a trouvé le mot « sermon sur la montagne », mais c'était, on va dire, un séminaire sur la colline, parce que c'est pas très haut en Galilée, là-haut. Et un séminaire. Donc ça se termine, et on a vu depuis mars que ce soit tout le sermon sur la montagne avec, et vous avez des affiches là, on arrive à... Enfin, il y a sept affiches, mais il y a six prédications sur les béatitudes, et puis après aimer, donner, prier. C'était sel et lumière. Après aimer, donner, prier. Ensuite, on a vu semaine 4, le choix, la foi, le choix de la confiance. Semaine 5, c'était la semaine dernière, le prendre soin des relations. Dans des lectures quotidiennes, avec chacun avait reçu un livret, avec des prédications donc le dimanche, et puis aussi des groupes de maison où on partageait sur ce qu'on avait reçu, ce qu'on avait compris de ce sermon sur la montagne, et ce qu'on avait reçu. Et puis, ça se termine, le séminaire se termine, les personnes ils rangent leurs crayons dans leur trousse ou leur portable dans leur housse et ils referment leur cahier de notes après le séminaire. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin du sermon sur la montagne? Ils s'apprêtent à partir, et quel sera le mot de conclusion? Et en fait, c'est Matthieu, l'évangéliste, le rédacteur, qui va donner le mot de conclusion. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les scribes, les spécialistes de la loi. Et puis on commence le chapitre 8, verset 1. « Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. » Et le mot clé de cette conclusion de Matthieu, c'est le mot « autorité ». Il parlait avec autorité. Une autorité que les scribes, les enseignants de la loi n'avaient pas. Les gens... Jésus faisait autorité, et les gens étaient impressionnés par l'autorité de Jésus. Ils étaient choqués, abasourdis, estomaqués, scotchés. En grec, l'expression pourrait se traduire « muets de stupeur ». Ils étaient muets de stupeur. Bah. Ils étaient bouche bée. On ne sortait pas indemne d'un séminaire sur la colline avec Jésus, ou de ces 40 jours avec Jésus sur la montagne. On est remué au plus profond. Après ce séminaire ou ces 40 jours, personne ne disait « ouais, c'était pas mal, c'était intéressant, j'ai bien aimé la fin, c'était un peu long au milieu, mais c'était pas mal dans l'ensemble ». Non, les gens étaient interpellés dans leur conscience et dans leur intelligence et dans leurs émotions, parce que Jésus parle avec une autorité toute particulière. Et on va essayer de savoir ce matin de quoi est faite cette autorité de Jésus, sur quoi elle repose exactement, de quel genre elle est, et puis aussi de savoir ce que nous, on va en faire de cette autorité de Jésus, de ces paroles dites avec autorité dans son sermon sur la montagne. Et en ce dimanche des rameaux, se poser la question comment on va accueillir ce Jésus qui a ces paroles d'autorité. Est-ce qu'on va l'accueillir comme un beau parleur, comme un bon moralisateur d'une morale chrétienne? Un poète inspiré, un philosophe qui passe bien, un conférencier intéressant, où on va l'accueillir, Jésus, comme une personne qui fait autorité. Alors, de quelle autorité on parle? Premièrement, on pourrait parler de, voilà, une parole d'éternité, d'autorité, d'éternité aussi d'ailleurs, mais on pourrait parler d'abord d'une autorité liée vraiment à la personne de Jésus, la personnalité, une autorité intrinsèque qui n'est pas liée à un titre ou à une fonction, mais liée à la personne même. C'est la personne de Jésus qui impressionne. Et vous savez que j'aime beaucoup la musique classique, surtout les Beatles. Mais j'ai entendu l'histoire de cet Allemand qui aimait vraiment la musique classique, et en particulier Jean-Sébastien Bach, ce compositeur virtuose du XVIIIe siècle, qui a composé des œuvres en tout genre. Et des œuvres pour piano, et des œuvres très difficiles à jouer. Et en particulier, les variations de Goldberg, de Jean-Sébastien Bach. Très difficiles à jouer. Alors sur un clavecin à deux claviers, ça va, mais sur un piano avec un seul clavier, il y a un problème de chevauchement des mains. Je vous le dis comme je l'ai entendu, parce que j'ai pas essayé. Mais très difficile. Personne n'arrivait vraiment à le jouer sur un piano, jusqu'au jour où, en 1955, un jeune homme de 23 ans sorti de nulle part joue avec une virtuosité époustouflante les variations de Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Ce jeune homme canadien, en fait, de 23 ans, s'appelait Glenn Gould, et il fait autorité en matière de Jean-Sébastien Bach aujourd'hui. Venu de nulle part, venu pas de grosses études, pas de nom, pas de maison de disque, pas de titre, pas de concours gagné pour Glenn Gould, mais il avait cette autorité quand il jouait Jean-Sébastien Bach, une autorité magistrale. Et Jésus avait cette autorité qui émanait de sa personne. Et si on creuse un peu, on s'aperçoit que cette autorité intrinsèque, on peut la préciser de deux manières. C'est une autorité d'abord qui vient d'une cohérence entre ses paroles et sa vie. Et quand Matthieu nous parle de l'autorité de Jésus, il la compare, on l'a entendu, à celle des spécialistes de l'Écriture et de la loi, de la religion et de la société. À l'époque, les docteurs de la loi, ils gèrent tout, hein, pas seulement la loi religieuse, mais la société. Et Matthieu nous dit que Jésus parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Et c'est cela qui frappe ceux du séminaire sur la colline, cette différence d'autorité. Et on peut se demander ce qui faisait la différence entre Jésus et les spécialistes de la loi en ce qui concerne l'autorité, et c'est Jésus lui-même qui nous met sur la piste quand il s'adresse de nouveau à la foule en Matthieu 23, en parlant des docteurs de la loi, « Faites tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement, mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » Il n'y a pas de cohérence. Et Jésus dit de ses spécialistes, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et c'est justement ce décalage entre les actes et leurs paroles qui sape toute leur autorité. Un peu comme l'autorité des parents vis-à-vis des enfants, ils sont très sensibles, les enfants, à la cohérence des parents. Si on leur dit de pas manger du chocolat, interdiction de manger du chocolat, et qu'ils nous surprennent un jour à nous enfiler d'un coup une tablette de chocolat Lindt aux éclats de caramel, ça va plus. Et ils vont, papa, je t'ai vu manger une tablette de chocolat. Et même si on leur dit, oui, mais c'est pas pareil. Moi, je suis le papa, toi, t'es l'enfant. Ça vous sape votre autorité en matière de chocolat. Au moins. Et le chocolat sera un domaine perdu à jamais. Mais Jésus, lui, est une personne cohérente qui vit pleinement ses paroles et son message. Il n'y a pas de décalage entre ce qu'il annonce et ce qu'il vit. Ses paroles confirment ses actes confirment ses paroles. Il est cohérent, il est aligné et ça fonde son autorité. Et c'est pour ça que lorsque les gens l'écoutaient, ils disaient, et je cite dans un des évangiles, « Cet homme parle des paroles de Dieu ». Il y avait une puissance extraordinaire dans cette cohérence et les gens reconnaissaient qu'il y avait une autorité qui venait d'en haut. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des paroles vides, ce ne sont pas des effets d'annonce comme beaucoup de politiques font aujourd'hui. Et hier peut-être aussi, je ne sais pas, mais c'est clair qu'aujourd'hui il y a des effets d'annonce. Non, Jésus est d'une cohérence incroyable. Et dans un deuxième temps, cette cohérence, il faut savoir qu'il l'a tenue jusqu'au bout. Jésus est cohérent jusqu'au bout, jusqu'au moment ultime, jusqu'à cette mort sur une croix qui venait prouver que Jésus vivait ce qu'il disait jusqu'au bout. C'est lui qui incarne les valeurs des béatitudes du sermon sur la montagne. Les valeurs de l'Évangile, jusqu'au bout, jusqu'à en mourir vraiment. Et cette cohérence jusqu'au bout fonde aussi son autorité. Et c'est ce que dit Paul dans ce verset très intéressant de Philippiens 2, où il nous parle dans ce chapitre de l'obéissance de Christ qui s'est humilié lui-même jusqu'à devenir serviteur et mourir sur la croix. L'humiliation de Christ, le service de Christ, le jusqu'au boutisme de Christ. Et Paul continue en disant « c'est pourquoi ». Le « pourquoi », c'est fait référence à ce qu'il y a avant, la croix, l'humiliation, l'obéissance. « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place ». Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen !» C'est la croix, c'est son jusqu'au boutisme qui lui confère son autorité, qu'il est Seigneur. Wow. Et puis, autorité de Jésus vient de cette cohérence entre ses paroles et sa vie, cette cohérence jusqu'au bout, et aussi du fait qu'il a des paroles directes pour un message vraiment libérateur. Jésus, on l'a lu dans son sermon sur la montagne, chaque jour, depuis 35 jours, qu'il a des paroles assez dures, des paroles assez radicales, assez compliquées à vivre. Hein. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, un objet de scandale, scandalon, eh ben, il vaut mieux l'arracher. Parce qu'il vaut mieux être borgne et rentrer dans le royaume des cieux que d'avoir ces deux yeux et d'être dans la géhenne, dans ce petit feu qui fume à l'extérieur de Jérusalem avec les détritus. Oh, c'est dur à avaler, ça. Comment je vais faire? Son message était radical, mais ça restait un message libérateur. Et son autorité provenait également de là, de cette puissance libératrice, et non pas comme celui des scribes et des pharisiens. Et voilà ce qu'il est dit, à contrario, un enseignement lourd, un enseignement qui ne libère pas du tout. Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Ils lient, du verbe « lier » qui emprisonne, de pesants fardeaux et les place sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les soulever, pour les déplacer, ces fardeaux. Le message des spécialistes de notre société, de leur société de l'époque et peut-être de notre société, sont des messages qui ne libèrent de rien. Je pense à Michel Onfray, par exemple, qui envoie des messages partout, qui nie l'existence même de Jésus-Christ, etc. Qu'est-ce qu'il libère? Il libère de quoi, Michel Onfray? Bon, bref. Jésus, lui, son message, libère vraiment. Et ça fonde aussi son autorité. Et Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes accablés et chargés, accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur moi, sur vous, et mettez, prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Message libérateur. Vraiment libérateur. Et le message de Jésus est libérateur, même s'il est parfois dérangeant. Et il nous dérange dans notre petit confort intérieur, parce que Jésus n'est pas venu enlever ce qui nous dérangeait, mais il est venu enlever ce qui nous détruisait et ce qui nous emprisonnait. Jésus ne nous donne pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Et nous avons besoin d'être libérés de tous nos fardeaux, de toutes nos petites prisons intérieures, de ces fardeaux qui nous détruisent, qui nous tirent vers le bas, qui nous écrasent. Et il n'y a pas de plus lourd fardeau que ce que nous nous mettons nous-mêmes sur nos épaules. Ce qui nous pèse le plus, c'est bien notre moi. C'est bien notre petit royaume, notre petit égocentrisme, centré sur nous-mêmes, nos idoles. On l'a vu en janvier-février, les promesses de l'ombre, nos petites idoles. Ce qui nous enfonce le plus, c'est notre volonté propre de nous en sortir nous-mêmes, de résoudre par nous-mêmes l'équation de la vie. Et ce qui nous pèse le plus, c'est notre culpabilité et notre frustration de ne pas pouvoir le faire, résoudre l'équation de la vie. Et Jésus sait ce qui nous enfonce, ce qui nous détruit, ce qui nous amène au 36e dessous, et par ses paroles radicales du sermon sur la montagne, il veut que nous comprenions, et que nous le comprenions également, et que nous arrivions à prendre conscience de ses fardeaux pour mieux nous en décharger sur lui. Et il va dire, non pas ce que nous aimerions bien entendre, Jésus ne fait pas dans le populisme, jamais. Mais, encore une fois, il nous dit ce que nous avons besoin d'entendre. Et il nous dit, enlève ton masque. L'hypocrite, c'est le comédien. Arrête ta comédie, ne te laisse pas avoir par tes idoles ou tes pulsions intérieures. Ne cherche pas à écraser les autres pour te réaliser. Arrête de dire « Seigneur, Seigneur !» et mets en pratique mes paroles. Ne te trompe pas dans le choix de tes valeurs et de tes investissements. Ne condamne pas les autres. Prends la porte étroite, celle de l'abandon et de la grâce, et cesse d'essayer de t'en tirer par tes propres efforts. Voilà ce que Jésus dit. Voilà le message dérangeant un peu, parce que c'est plus sécuritaire de se faire par soi-même. Jésus dit, laisse tomber. Et tout ce que Jésus condamne dans le sermon sur la montagne et sur lequel il dirige la lumière de sa grâce, il le fait parce qu'il veut nous libérer. Et c'est cela qui fonde son autorité. Il parle avec autorité pour nous libérer, et on le sent. Moi, je le sens, en tout cas. Et on le sait, c'est une autorité libératrice. Et à la fin de ces 40 jours, avec Jésus et son sermon sur la montagne, qu'allons-nous faire de ces paroles de Jésus, entendues pendant ces 6 prédications, ou pendant les groupes de maison, ou dans vos lectures quotidiennes avec le livret? Qu'allons-nous en faire de ces paroles d'autorité qui dérangent, mais qui libèrent? Alors, une réaction courante serait de les juger intéressantes, intellectuellement intéressantes, éthiquement intéressantes, socialement intéressantes, mais trop difficiles à suivre. Alors, on va les mettre au frigo, au congélo, et chez vous comme chez nous, on oublie des trucs au congélateur. Hein, le petit sac de petits pois. On l'oublie. Regardez. Et donc on oublie. On met tout ça au frigo, en attendant. Et tout doucement, on devient un petit peu minimaliste dans sa vie chrétienne. Et on se dit que décidément, suivre Jésus et suivre son message, même libérateur, nous coûterait trop cher. Et qu'il faudrait tout donner et même se donner, mais ça coûte cher. On n'est pas encore prêt. Il y a Dallas Willard, c'est un homme de la Bible, qui a écrit un livre dans les années 2000. Ma belle-sœur, la sœur d'Yvonne, l'a rencontré en Californie, qui a écrit un livre qui s'appelle « La conspiration de Dieu ». Dieu conspire, non pas contre nous, mais avec nous. Inspiré, soufflé de son Saint-Esprit, et il s'interroge sur la vie du disciple au XXIe siècle et du calcul que l'on fait souvent et que l'on fait mal. On fait des mauvais calculs parce qu'on pense toujours à tout ce que nous perdrions si nous nous mettions à le suivre vraiment, et nous oublions de compter tout ce que nous gagnerions à le suivre. Et il nous invite, Dallas et son univers non impitoyable, à refaire le calcul et à nous rendre compte que oui, il y a un prix à payer pour suivre Jésus et rentrer et vivre dans le royaume. Il y a un coût, mais il nous invite aussi à nous poser la question de savoir quel serait le prix si nous ne le suivions pas. Ça coûte de suivre le Christ, mais ça coûte plus cher de ne pas le suivre. Et voilà ce qu'il dit. À moins de prendre conscience de façon claire de la supériorité de ce que nous recevons en tant que disciples de Jésus par rapport à toute autre chose à laquelle nous attacherions de la valeur, nous ne pourrons pas devenir de véritables disciples. Bon. Dallas Willard. Jésus avait cette autorité de dire des paroles exigeantes, hein. De quelle autorité tu te réclames pour dire ces choses-là, on pourrait lui demander, mais ce sont des paroles qui sont là pour nous libérer de tous ces fardeaux qui nous pèsent et qui nous entraînent vers le fond. Les gens étaient impressionnés parce que Jésus exigeait beaucoup, mais il offrait encore plus. La vie, la vraie. Non pas la vie au champ, mais la vie avec Dieu. La vie comme le Nouveau Testament l'appelle, la vie éternelle, qui commence maintenant et qui est avec Dieu. Et puis, bon, on a parlé de cette autorité intrinsèque qui est liée à la personnalité de Dieu. On pourrait parler d'une autre autorité qui est l'autorité formelle qui serait liée à des fonctions, à un rôle, à une position. On aurait pu parler de Jésus comme roi. Il est présenté dans la Bible comme un roi quand on parle du royaume de Dieu. Dans ce royaume, c'est Christ qui est le roi des rois. La royauté de Christ. Et le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, parle d'une souveraineté de la royauté qui a été donnée au Fils d'homme, une prophétie par rapport à Jésus-Christ. Mais un autre aspect, c'est dont on peut parler dans l'autorité formelle, c'est celui du juge. Dernier aspect, mais il est important. Et cette question du jugement, elle apparaît dans la fin du sermon sur la montagne, quand il parle des deux chemins, le chemin étroit et le chemin large qui mène à la destruction, à la perte, au naufrage, pourrait-on traduire. avec aussi la tempête qui vient sur les deux maisons, la maison qui est bâtie sur le roc, la maison qui est bâtie sur le sable. Vous le verrez cette semaine en lisant les livrets. Ou sur la personne qui n'a pas mis en pratique, enfin c'est la même chose, la maison sur le sable, c'est celle d'une personne qui n'a pas mis en pratique les paroles de Jésus. Ou aussi cette semaine, quand Jésus dit, vous avez beau dire Seigneur, Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Des gens qui disent Seigneur, Seigneur, Jésus lui leur dit, moi je sais pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur que je vous connais. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Jésus exerce un jugement. Et ce qui est frappant, et ce qui a dû frapper les gens dans ce séminaire sur la colline, c'est que le jugement se faisait par rapport à lui, par rapport à ses paroles. Et même plus, il est celui qui juge. Non seulement il parle de jugement, mais il se place comme juge dans ce jugement. Jésus en impose par sa fonction de juge. Car en se plaçant comme juge, il se fait tout simplement l'égal de Dieu. Il est Dieu, fils de Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu. Il est Dieu qui vient parmi les hommes et qui le fait avec autorité. L'autorité du juge formel de sa fonction, et Jean-Baptiste le reconnaît bien, il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu du jugement. Il tient en main sa pelle à vanner. Et il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Il parle de Jésus. Et ce que Jean-Baptiste dit, c'est que son cousin fait autorité. Loin au-dessus de la sienne. Et que cette autorité est manifeste dans le fait qu'il prononce des jugements sur le monde. Avec la balle qui va dans le, enfin, ce qui reste de du blé qui va dans le feu. Et l'idée du jugement du juste, c'est une image qui frappe hein, et qui fait et qui provoque parfois un malaise dans notre société où on relativise tout. Mais Jésus a cette autorité et il a le droit d'accomplir le jugement sans merci alors qu'il traverse la Galilée. Mais au lieu de cela, au lieu d'accomplir son jugement, il se tient devant de vous, oh, il se tient devant, se tient debout devant Matthieu ou Lévi, le collecteur d'impôts avec une réputation compliquée, et il va lui dire. Toi, suis-moi. Je te donne le droit ou je te fais la grâce de me suivre. Et à cette femme, que l'on appelle souvent la femme de mauvaise vie, que j'appelle plutôt la femme avec une vie mauvaise, c'est ce que j'ai marqué, hein, à la vie mauvaise, une femme pas heureuse, pris en flagrant délit, en flag, que des bien-pensants veulent lapider. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. J'ai un message libérateur pour toi, pas un message de jugement, un message libérateur par la grâce, par mon pardon, va et ne pêche plus, va, suis-moi, choisis de me suivre. Il a le droit de juger, il est juge, il est roi, il a le droit de juger chacun d'entre nous, de nous condamner, mais il dit aussi à chacun d'entre nous, toi, suis-moi, je te donne le droit de vivre pour que tu me suives. Quel roi nous avons là? Quelle autorité de Jésus comme maître, comme sauveur, comme juge? Alors, comment nous allons conclure ces 40 jours avec Jésus sur la montagne, chacun pour notre part? Alors, que fait la foule qui est frappée par l'autorité de Jésus? Eh bien, ils descendent de la colline avec lui. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et on pourrait imaginer que chacun prenne son petit papier, et on descend de la colline et on se met à le suivre. Ils sont devenus des disciples, ils ont mis leur vie dans les mains du maître et ils ont mis leur vie à sa disposition. Allez, on te suit radicalement. On y va. Il y a Dallas Willard, dernière citation, hein, qui disait « On devient disciple par une décision. On ne glisse pas vers la vie de disciple. On le devient par une décision. » Et oui, on voudrait le suivre à la fin de ses 40 jours parce qu'il a cette autorité du maître et il y a cette cohérence entre les paroles et sa vie jusqu'à la mort. Jusqu'au bout. Il a cette autorité des paroles qui libèrent. Il a l'autorité du roi des rois et du juge qui fait grâce et qui nous appelle à le suivre. Ils sont sortis du séminaire sur la colline et ils se sont mis à le suivre parce qu'ils parlaient avec autorité et non pas comme tous les scribouillards du monde. Alors, comment allons-nous accueillir ce Jésus en ce dimanche des rameaux comme les habitants de Jérusalem l'ont fait il y a bien longtemps. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est peut-être aujourd'hui l'occasion, le kairos, le bon moment, le temps opportun pour donner sa vie à ce roi des rois qui fait autorité en matière de vie et de foi. À lui confier les rênes de sa vie, de lui dire « Je t'appartiens, ô mon roi ». Je te fais confiance pour ma vie. Et puis, pour ceux qui sont disciples depuis longtemps, mais qui sont un peu fatigués sur la route, qui sont devenus un petit peu minimalistes, désabusés, ou qui plient sous les fardeaux qui se sont accumulés sur les épaules tout au long du périple. Je ne parle pas des 40 jours, mais du périple de la vie. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ, de refaire ses calculs, si tant est que c'est vraiment un calcul, et se dire, et puis de pouvoir dire, ma vie t'appartient, ô mon roi, parce que j'ai tellement plus à gagner à te suivre que de ne pas le faire. Pour tous, l'occasion de réagir aux 40 jours avec Jésus sur la montagne, à ce séminaire donné sur la colline par un maître. Et nous allons chanter ensemble ce chant que... Oui, je voulais terminer aussi sur cette diapo. Heureux es-tu, heureux êtes-vous, heureux sommes-nous de suivre Jésus. J'ai parlé de coups. J'ai parlé de coups, mais le bonheur, les béatitudes, le bonheur de le suivre, de « following Jesus », c'est la seule image que j'ai trouvée. Mais avant de chanter « Je suivrai mon Seigneur », ce sera pour chacun l'occasion de se remettre hein, dans les empreintes de Jésus, de le suivre, celui qui parlait avec autorité. L'occasion oui, de s'y remettre, on va prier. Avec un moment de silence d'abord. Chacun puisse se remettre devant le Seigneur Jésus et se remettre devant son autorité intrinsèque, son autorité de roi, de juge, la cohérence, son salut, ses paroles libératrices et se demander ce qu'il en fait. Comment il l'accueille dans sa vie. Seigneur, j'ai été dérangé par ton sermon. J'ai pas spécialement envie d'être gentil avec tout le monde. J'ai pas spécialement envie d'être doux. J'ai pas spécialement envie de tendre la joue droite quand on me frappe sur la gauche. J'ai pas tellement envie de m'arracher un œil pour pouvoir rentrer dans ton royaume. J'ai pas envie de spécialement de renoncer à plein de choses pour prendre la porte et le chemin étroit. Oui, Seigneur, tes paroles sont dérangeantes, mais tu m'offres ta grâce. Tu nous offres ta grâce. Et c'est par ta grâce que nous venons devant toi ce matin pour te dire combien nous avons besoin de toi pour marcher à ta suite. Et merci parce que dans ta grâce, tu nous lances à chacun d'entre nous ce matin cet appel. Que nous soyons inspecteurs d'impôts comme Matthieu ou autres, tu nous adresses à toutes et à tous cet appel. Toi, viens et suis-moi. Et tu le fais par ta grâce, par ton amour et ton pardon, à cause de la croix. Et en ce chemin vers Pâques, nous souvenons aussi que tu es ressuscité, que tu es vivant, et que tu règnes, et que tu régneras complètement lors de ton second retour. Merci pour cette cohérence de ton message. Je te prie que par ton esprit, tu agisses puissamment dans nos esprits. Tu nous appelles à te suivre. Nous voulons te suivre et nous allons le chanter. Je suivrai mon Seigneur.